L'amiral Nelson, par G. de Rollin. Nelson, nom prestigieux, d'une irradiation unique dans les fastes maritimes des nations. Quelle figure et quelle existence tourmentée que celle de ce fils d'un petit pasteur protestant, père de 11 enfants. C'est aussi varié, aussi passionnant qu'un roman d'aventure, et nous avons peine à nous figurer que cela s'est passé guère plus d'un siècle avant notre époque. Horace, quatrième enfant du pasteur Edmund Nelson, naquit le 29 septembre 1758 dans le petit village de Burnham Thorpe, composé d'une dizaine de maisons. Les trois enfants qu'il avait précédés étaient morts en bas âge. Lui-même était si débile qu'on craignait pour sa vie. Rien, ni dans son entourage, ni dans ses ancêtres, ne le prédisposait à la carrière maritime, que semblait devoir au contraire lui interdire son état de santé. À 9 ans, il perdit sa mère. À 14 ans, une nouvelle lue dans un journal décida de son avenir. Son oncle venait de recevoir le commandement du raisonnable vaisseau de 64 canons. Aussitôt, il lui écrivit pour lui demander de le prendre à son bord. La réponse fut une acceptation résignée, accompagnée d'objections relatives à sa débilité. On entrait alors dans la marine royale par 3 moyens. Il y avait d'abord l'académie de Portsmouth, dont on sortait au bout de 2 ans avec le grade d'aspirant. On pouvait également obtenir cette qualité grâce à des protections. Enfin, il restait la ressource de figurer sur les rôles comme domestique du capitaine. Ce dernier moyen était d'autant plus employé qu'une tradition s'était établie en vertu de laquelle le dit capitaine gardait pour lui la seule de ses prétendus domestiques, si bien qu'il fallut en limiter le nombre. C'est par cette porte basse que le grand Nelson se faufila dans la marine royale. Ses débuts n'y eurent rien d'encourageant. Après avoir parcouru l'Atlantique Sud et l'océan Indien, après avoir eu le mal de mer sous diverses latitudes, il revint en Angleterre à l'âge de 18 ans. Sa santé avait résisté aux fatigues du métier, comme à celles des climats tropicaux, mais il était ratatiné, avec un teint jaune et découragé au point de vouloir se jeter à l'eau. Toutefois, ses accès de découragement ne duraient pas. Une ambition sans bornes le dévorait. Il rêvait d'être un héros et de laisser un nom immortel. Le 8 avril 1777, il est nommé sous-lieutenant et fait voile vers les Antilles à bord de la frégate Lowestoft. L'année suivante, le 8 décembre, il y obtient le commandement du brigantin Badger. Bataillant de droite et de gauche, il fait des prises dont la plupart qui lui revient remplit fort à propos le vide de sa bourse. Le profit est un stimulant dont l'action se joint à l'amour de la gloire et au désir d'avancement. À 21 ans, le jeune Horace, qui n'a passé par aucune école, est bombardé capitaine de vaisseau. Heureuse époque. Quelque temps plus tard, on le retrouve à Bath, petite ville d'eau de l'Angleterre, en train de se soigner. Les fièvres du Mexique et la dysenterie l'ont rendu malade. À peine rétabli, il est embarqué sur l'Albemarle et envoyé dans les brumes hivernales de la Baltique. De là, on l'expédie vers le Canada, où le froid ne vaut pas mieux. Il y gagne de faire la connaissance du prince royal, qui deviendra plus tard le roi Guillaume IV. En attendant, il le transporte aux Antilles. Là, il se prend de querelle avec les autorités qui fermaient les yeux sur le commerce illicite avec les insurgents d'Amérique. De son chef, il fait la chasse à leurs navires et en confisque quelques-uns, avec la frégate Boreas, qu'il commande depuis le mois de mars 1784. D'où procès. Quand la nouvelle parvient en Angleterre, le gouvernement approuve la chasse. Mais ses remerciements, se trompant de route, vont au gouverneur même qui s'y montrait opposé. En toute chose, le jeune Horace faisait preuve d'un caractère passionné, servi par une volonté de faire. Il ne pouvait voir une jolie femme sans en tomber amoureux et vouloir l'épouser. Il avait déjà raté son coup plusieurs fois, quand les hasards de sa carrière le mirent en présence de Fanny Nisbet, pour laquelle il s'enflamma. C'était la veuve d'un médecin qui était mort dans un asile d'aliénés, au bout de 18 mois de mariage, lui laissant un petit garçon. Ceci se passait dans l'île de Nièvre, où l'amour lui servit à tromper l'impatience que lui causait son inaction. Le mariage fut célébré le 12 mars 1787, et le prince Guillaume conduisit lui-même l'épousée à l'hôtel. Embarquée sur le Boreas, Madame Nelson arrivait à Portsmouth à la fin de juillet. Saisis par le changement de climat, tous deux tombèrent malades. En janvier 1793, il arbore son guidon sur l'Agamemnon et part pour l'Espagne à la tête d'une escadre de vaisseaux de ligne. De là, il croise en Méditerranée, ce qui l'amène souvent à Naples. Il y fait la connaissance de la fameuse Emma Lyon, femme de Lord Hamilton, ambassadeur d'Angleterre auprès de Ferdinand IV, qui jouera un si grand rôle dans sa vie. Le 12 juillet 1794, à l'attaque de Calvi, qu'il conduit dans une embarcation, un obus fait voler du sable dans son œil droit, dont il demeura privé. Découragé, il s'en revient à Livourne, d'où il écrit à sa femme « J'ai perdu un œil, 300 livres et ma santé. » Ce pourquoi on ne lui a pas rendu justice. Il faut attendre l'été de 1796 pour revenir en Angleterre, où on lui donne le commandement du Captain, vaisseau de 74 canons avec le grade de Commodore. Il en repart aussitôt pour la Méditerranée, théâtre de ses principaux exploits. Le 13 février 1797, dans l'escadre de Jervis, il s'illustre au combat du Cap Saint-Vincent contre les Espagnols. À l'arrière-garde de la flotte, il s'aperçoit que le groupe principal ennemi se dispose à la retraite. Contrairement aux ordres reçus, il sort de la ligne, change de direction et va lui barrer la route. Aux prises avec la Santa Trinidad, vaisseau à quatre ponts, il a bientôt affaire à huit autres, dont deux, le Saint-Nicolas et le Saint-Joseph, s'acharnent après lui pendant 2 heures. Désemparé, sans gouvernail, ayant perdu 24 hommes, il parvient à aborder le premier, sur lequel il passe. De là, il s'élance avec ses matelots sur le second, qui se trouvait bord à bord et s'en empare. Cette manœuvre insolite et foudroyante lui vaut enfin l'illustration dont il rêvait. Du coup, il devient le contre-amiral Nelson, commandeur de l'ordre du Bain, idole de l'Angleterre. Il ne devait pas tirer longtemps son épée d'amiral, car le 24 juillet, devant Santa Cruz de Tenerife, un boulet à mitraille lui fracassait l'épaule droite. Il fallut lui amputer le bras avec une petite scie de 8 pouces au milieu d'atroces souffrances. Le 1er septembre, il débarquait à Spithead, d'où il se rendait en traitement à Bath. Dès lors, les honneurs et les réceptions commencèrent à pleuvoir sur lui. Son œil recouvert de taffetas noir, sa manche vide, lui donnait un air intéressant. En mars 1798, il part avec le Vanguard, autre vaisseau de 74 canons, rejoindre la flotte britannique à Lisbonne. Le 7 juin, il croise le large de Barcelone, à la tête d'une escadre de 14 vaisseaux de premier rang. C'est alors qu'il se lance à la poursuite de l'insaisissable Bonaparte, que des renseignements lui affirment avoir quitté Toulon pour une destination inconnue. Le 28 juin, il arrive à Alexandrie, croyant y trouver les Français qui n'y sont pas encore. Sans le savoir, il les a dépassés en route à faible portée. Furieux, il appareille pour la Syrie, le matin même, le jour où paraissait Bonaparte. C'est donc en vain qu'il fouillera la côte, puis la Crète, pour s'en revenir à Syracuse le 19 juillet. C'est en sortant de là qu'il apprendra, par un navire grec, la présence des Français en Égypte. Il y court et découvre la flotte de Bonaparte à Aboukir dans l'après-midi du 1er août. La résolution de l'attaquer au mouillage, malgré l'heure tardive, est de lui. Mais l'initiative de passer entre l'ennemi et la terre pour le prendre entre deux feux doit être restituée à Foley, commandant du Goliath, enfreignant à son tour les ordres de l'amiral. Le lendemain matin, la flotte française était anéantie. Seuls le Guillaume Tell et le Généreux s'étaient échappés en compagnie de 2 frégates. 5 vaisseaux gisaient au fond de l'eau. 10 autres avaient été obligés d'amener pavillon. Les pertes anglaises ne dépassaient pas 900 hommes, tant tués que blessés. Au premier rang de ces derniers figurait Nelson. Le visage ensanglanté par un éclat de mitraille, il n'avait pas pu voir la fin du combat. En Angleterre, la nouvelle de ce triomphe déchaîna un véritable délire, bien que le but ne fût pas atteint, qu'était de s'emparer de Bonaparte. Jetons un voile sur les années qui s'écoulèrent ensuite à Palerme, à Naples, puis en Angleterre. Contentons-nous de mentionner sa nomination, le 1er janvier 1801, au grade de vice-amiral, avec pavillon sur le Saint-Joseph d'abord, puis sur le Saint-Georges. Rattaché à l'escadre de Parker, il prend une part prépondérante à l'attaque de Copenhague le 2 avril. C'est là que se place sa réponse fameuse. On vient l'avertir que l'amiral a hissé le signal de cessation du feu. Comme tel n'est pas son avis, Nelson applique à la longue vue son œil borgne et dit en riant « Je ne vois pas le signal de Parker ». Résultat, la capture de 2 vaisseaux de ligne, 4 pontons et 8 batteries flottantes et surtout la sortie du Danemark de la neutralité armée. Cette fois, Nelson s'en tirait sans blessure, mais sa santé était de plus en plus mauvaise. du 27 juillet au 1er octobre, ayant son pavillon sur l'unité, il est chargé de la défense de l'Angleterre contre le projet d'invasion de Napoléon. Par deux fois, il se rend devant Boulogne pour y détruire notre flotte légère, sans réussir dans ses tentatives. Seule la paix d'Amiens lui rend la liberté pour deux longues années, à la suite desquelles il reçoit le commandement de l'escadre de cette Méditerranée à laquelle le rattache tant de souvenirs, sans compter le triomphe d'Aboukir. Sa mission consistait à empêcher la flotte française de sortir de Toulon pour venir dans la Manche. Mais l'amiral Villeneuve parvint à s'échapper en mars 1805. Pendant que l'escadre anglaise se ravitaillait en Sardaigne, il gagnait les Antilles. Nelson l'y poursuivit, le manqua, revint vers Gibraltar et de là, en Angleterre, où les craintes d'invasion diminuaient. Avant de partir pour sa dernière campagne, Nelson avait dit « Je veux faire mieux que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, mais je ne survivrai pas pour voir la gloire que j'aurai acquise. » Il semble bien que le 21 octobre 1805, lors de sa rencontre à Trafalgar avec Villeneuve, il ait eu à cœur de justifier cette parole. Plaçant la Victory en tête de la ligne de bataille, il lui réservait le poste le plus dangereux. Debout, sur la dunette, avec toutes ses décorations sur la poitrine, il y devint une cible toute désignée. On dit généralement qu'il mourut après le combat frappé par un boulet égaré. C'est une erreur. En pleine action, un tireur français l'abattit d'un coup dans le dos de la hune d'un de nos vaisseaux. Transporté à l'infirmerie, il eut la joie d'apprendre, avant d'expirer, que 14 des nôtres avaient succombé. Il n'avait pas 47 ans. Ce trépas, au milieu du triomphe, servit beaucoup sa gloire, qu'il poétisait à souhait. Ainsi s'achève l'amiral Nelson par G. de Rollin.